Dans la première épître à Timothée, au chapitre 5, me semble, c'est le chapitre 5, on peut lire le premier paragraphe. Première épître à Timothée, au chapitre 5, verset 1er. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs. En toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus. Car cela est agréable devant Dieu. Or celle qui est vraiment veuve et qui est laissée seule a mis son espérance en Dieu et persévère dans les supplications et dans les prières, nuit et jour. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses afin qu'elles soient irrépréhensibles. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un incrédule. Que la veuve soit inscrite, n'ayant pas moins de 60 ans, ayant été femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir marché dans les bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation, si elle s'est appliquée à toute bonne œuvre. Mais refuse les veuves qui sont jeunes, car quand elles s'élèvent contre le Christ en s'abandonnant à leurs désirs, elles veulent se marier, étant en faute parce qu'elles ont rejeté leur première foi. Et en même temps, elles apprennent aussi à être oisives, allant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi causeuses, se mêlant de tout, disant des choses qui ne conviennent pas. Je veux donc que les jeunes se marient, aient des enfants, gouvernent leur maison, ne donne aucune occasion à l'adversaire à cause des mauvais propos. Car déjà quelques-unes se sont détournées après Satan. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste, et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elles viennent au secours de celles qui sont vraiment veuves. Je dis quelques mots de la fin du chapitre 4 qu'on a vu la dernière fois au mois de décembre. Quelques mots seulement, pas exhaustif. On a vu que le chapitre 4 montrait l'apôtre Paul exhortant Timothée à être tout entier sans distraction pour le service du Seigneur. Il devait s'exercer lui-même à la piété, dans la conscience d'être devant Dieu et dans le jugement de lui-même. Timothée avait un service privé qui est détaillé jusqu'au verset 11, et puis, jusqu'à la fin du chapitre, un service public également. On a vu la dernière fois plus particulièrement ce service public, et je désire relever simplement ce que nous avons dit du verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » La lecture en premier, ça nous montre l'importance de la lecture, de la parole vivante et opérante dans nos cœurs, avant tout ce que l'on peut ajouter pour exhorter et pour enseigner. Ensuite, l'exhortation, c'est l'application de la parole de Dieu à notre vie. C'est pour éveiller notre conscience et nos cœurs, pour nous attacher au Seigneur Jésus, pour que notre marche soit juste devant Dieu. Enfin, l'enseignement, ou la doctrine, on a dit aussi, c'est montrer les caractères de Dieu. Montrer les caractères de Dieu qui nous donnent ensuite des principes généraux pour notre vie, mais aussi des principes particuliers à chacun d'entre nous.
Nous souvenons que la première épître à Timothée nous parle de l'ordre intérieur de l'Assemblée. Et si nous lisons attentivement les deux derniers chapitres de la première Épître à Timothée, nous voyons qu'il forme un ensemble, un bloc, et il nous donne des détails pratiques et aussi des avertissements afin que cette maison soit bien ordonnée et que chacun puisse être à sa place. Le chapitre 4 nous présentait des instructions précises pour Timothée et pour tous les serviteurs de Dieu. Dans ce chapitre 4, il nous était parlé de l'exercice de la piété, de notre état intérieur à chacun, avant de pouvoir présenter, comme Timothée, la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une harmonie entre notre propre état intérieur et ce que nous présentons publiquement. Et alors, les chapitres 5 et 6 nous montrent que la maison de Dieu, l'Assemblée, doit être un lieu d'heureuse communion entre les croyants. Et l'apôtre Paul nous présente les diverses relations qui existent entre les frères et les sœurs et tous dans une assemblée. Et il décrit la conduite que nous avons à adopter dans ces relations afin que la maison de Dieu soit bien ordonnée. Alors nous voyons que la maison de Dieu n'est pas construite comme une entreprise aujourd'hui. Ce n'est pas non plus une armée avec des soldats qui seraient pratiquement les uns et les autres. Mais le modèle que propose l'apôtre Paul, c'est le modèle d'une grande famille. Et une grande famille qui est gouvernée par l'amour. Une entreprise ou une armée, bien sûr, la discipline peut exister, mais c'est une discipline qui est froide. Tandis que les relations dans une assemblée de Dieu, entre les frères et les sœurs, diverses relations doivent être exercées dans l'amour. C'est l'amour qui doit régner entre les uns et les autres. Et donc, l'apôtre Paul nous présente dans ces deux chapitres 12 relations. On peut proposer un plan pour ceux qui prennent éventuellement des notes. Et donc, dans le chapitre 5, nous sont présentées 8 relations et dans le chapitre 6, 4 relations. Et alors, dans le chapitre 5, en lisant attentivement, nous avons d'abord les hommes âgés, ensuite les jeunes gens, seconde relation, troisièmement les femmes âgées, quatrièmement les jeunes femmes, cinquièmement les veuves, avec, on va dire, des sous-catégories. En 6, que nous n'avons pas lu à partir du verset 17, il nous est parlé des anciens, des surveillants. Ensuite, au verset 20 et 21, il nous est parlé des frères qui s'égarent ou ceux qui se sont égarés. Ensuite, au verset 22 et jusqu'à 25, il nous parle donc d'une dernière relation. Ce sont des nouvelles connaissances, des personnes que nous ne connaissons pas encore. Et donc nous voyons que l'apôtre Paul détaille relation après relation afin que la maison de Dieu soit bien ordonnée dans l'amour. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi l'apôtre Paul détaille ces 12 relations successivement. Et il faut se souvenir que l'assemblée de Dieu, la maison de Dieu, a un témoignage public vis-à-vis du monde. Et le but de l'apôtre, eh bien, c'est que les relations dans la maison de Dieu soient des relations heureuses, de telle manière que le témoignage public de l'assemblée soit un témoignage clair vis-à-vis du monde. Une maison de Dieu en désordre, c'est un contre-témoignage de ce que nous sommes en réalité. La présentation de l'ordre intérieur de l'Assemblée de Dieu nous parle d'un témoignage public de la maison et de ce qui la compose vis-à-vis du monde. Et nous pouvons déjà nous poser cette question en tant qu'expression de l'Assemblée de Dieu, localement, eh bien, quel est notre témoignage public vis-à-vis de ce monde? Est-ce que nous avons des relations heureuses entre nous dans l'amour?
On a déjà l'occasion de relever que dans cette épître, on a une alternance, pas toujours bien séparée, mais quand même on peut distinguer des choses que Paul dit à Timothée pour lui-même et d'autres choses que Paul dit à Timothée pour ce qui touche la marche collective et le service que lui a dans ce qui est de ce registre collectif. Et on peut remarquer que, déjà au chapitre 4, par ce qu'on a donc vu, ce qui précède, que dans les choses que Paul dit à Timothée pour lui-même, il y a un côté assez, comment dire, incisif, assez précis, fort, parce qu'entre Paul et Timothée, il y a une relation de confiance où Paul peut se permettre de dire des choses très directement à Timothée en étant tranquille qu'il sera bien compris et bien reçu. Alors que quand ça concerne ces choses qui sont ce que Timothée doit répercuter plus loin, il y a l'attention qui est mise justement sur cette manière de nourrir et de gérer ces relations vers les autres, avec les autres, pour les autres, où justement Timothée doit veiller à ne pas être direct comme Paul peut se permettre d'être avec lui, si je peux dire les choses comme ça. Et c'est déjà frappant dans ce premier verset du chapitre 5, « Ne reprends pas rudement l'homme âgé ». C'est une phrase qui est très directe de Paul à Timothée, mais qui se traduit pratiquement pour Timothée, « Attention, je dois veiller » pour enseigner, pour ce qu'on a rappelé dans le résumé, la lecture, l'exhortation, l'enseignement, mais je ne dois pas le faire n'importe comment. Je ne peux pas, il n'est pas à sa place, il n'est pas bénéfique, ce n'est pas le caractère que Dieu veut qu'il y ait, que je reprenne, que je m'adresse à n'importe qui, n'importe comment. Et là, la première catégorie de personnes que Paul évoque, l'homme âgé. Chapitre précédent, il relevait que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a donc un contraste potentiel, fort, entre Timothée, relativement jeune, le terme de la jeunesse que Paul utilise, considère quelqu'un de moins de 40 ans, d'après l'original. Donc ce n'est pas non plus un adolescent. Mais moins de 40 ans, quelqu'un qui est dans la force de l'âge, dans la vivacité qu'on a dans cette tranche d'âge. Et voilà, attention, on a peut-être de la peine à se mettre à la place du plus âgé qui n'a plus cette vivacité, qui n'a plus autant de ressorts, qui n'a plus voilà, qui a aussi une expérience de la vie différente et voilà, un regard qui a été formé par quelque chose qui est derrière lui, ne reprend pas rudement l'homme âgé. C'est peut-être une autre manière de dire à Timothée, attention, surveille la fougue de ta jeunesse. Voilà, on peut dire comme ça, on pourrait dire autrement. Et il y a quelque chose de profitable pour chacun de nous à tout âge. Le mot rudement nous parle de quelque chose de brutal par rapport à reprendre, qui est quelque chose qui a un but d'amour qui n'est pas du tout brutal. Et on peut au fond contredire l'intention par la manière. Je me souviens d'un frère âgé à l'époque qui me disait une fois, il y a longtemps de ça, on peut enseigner des choses très justes et les dire de telle manière que ça ne peut pas passer. Et j'ai eu le sentiment qu'il parlait d'expérience personnelle, qu'il avait dû apprendre qu'on ne peut pas dire n'importe comment. C'est pas parce que, à la limite, je dis des choses un peu abruptement, c'est pas parce qu'on a raison qu'on peut l'affirmer de manière carrée, incisive, etc. C'est plus fin que ce que je dis comme ça. Ne reprends pas rudement l'homme âgé. On peut noter d'ailleurs que le terme qui est utilisé dans l'original pour homme âgé, c'est le même mot que pour l'ancien, presbytéros. C'est deux traductions qui ont chacun leur place. L'ancien ou l'homme âgé, c'est le même mot dans l'original. Mais l'ancien est plutôt utilisé dans un cadre du fonctionnement normal de l'assemblée, alors que là, l'homme âgé, c'est plus l'état dans le cours de sa vie du frère qui est arrivé à un certain âge. C'est quelque chose de plus personnel, alors que l'ancien correspond plus à quelque chose lié à un service, une place donnée de Dieu. Et là, ça s'adresse à chacun, chaque interlocuteur âgé, potentiel, que Timothée peut rencontrer. On aura la même chose, qui est le même sujet qui apparaîtra sous un autre angle, tout à fait, au verset 17, quand il est parlé que les anciens qui président du Mans soient estimés dignes d'un double honneur. Et puis, un peu plus loin encore, ne reçoit pas de... Je retrouve le verset... Ne reçoit pas verset 19, ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est quand il y a deux ou trois témoins. Il y a un ensemble de choses différentes, mais liées autour de l'homme âgé en tant qu'homme âgé ou l'homme âgé en tant qu'ancien. Et c'est frappant que Paul commence par cela. Et ça donne le ton de ce qui va suivre dans le verset. Ne reprends pas rudement l'homme âgé. Ah, attention. Et puis alors après, il est parlé de comment l'aborder. Puis des jeunes gens, puis des femmes âgées. Femmes âgées, c'est d'ailleurs le féminin de homme âgé dans l'original. C'est le même mot, mais au féminin. Puis les jeunes sœurs. Et le fait de commencer par parler de l'homme âgé, oui, comme je disais, ça donne le ton de ce qui va suivre. C'est comme une espèce de grand « attention Timothée, attention ». Sois prudent, ne sois pas trop impulsif, ne sois pas trop vif, ne sois pas trop incisif, tranchant, attention. Il s'agit peut-être bien de reprendre, mais attention. Alors, ne le reprends pas rudement, mais exhorte-le comme un père. Et on a le contraste entre reprendre et exhorter. Reprendre, c'est mettre en avant une faute. Et la corriger. Exhorter, c'est mettre en avant un encouragement pour regarder en avant. Si on peut dire reprendre, il y a un regard en arrière. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas à sa place, etc. Alors que exhorter, c'est regarder en avant. Et regarder en avant, c'est regarder vers le Seigneur. Et comme un père. Et alors quand on parle du père, on pense à notre père. Nous, pères dans la chair, nous sommes des bien mauvais pères. Mais utiliser ce mot de père, ça nous rappelle notre Père qui est au ciel. ce nom de Père que le Seigneur Jésus nous a fait connaître pour Dieu, avec toute la proximité que ça suppose et tout le registre affectif que ça suppose. Et on a dans cette phrase quelque chose de très riche là, entre ce contraste entre attention, ce qui n'est pas à sa place, ce qui n'aura pas de résultat heureux, et ce qui est sa place et qui pourra porter du fruit.
Dans les versets 1 et 2, les hommes âgés, les pères, les femmes âgées, les mères, les jeunes sœurs, jeunes frères. On peut citer deux passages en Lévitique 19, le verset 32.
Lévitique 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu.
Et puis aussi dans Proverbe 23, 22.
Proverbe chapitre 23, verset 22. Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle aura vieilli.
Et honore ton père et ta mère, dit Matthieu ou Luc. Honore ton père et ta mère.
Dans Lévitique 19, nous voyons une application de ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire que l'amour n'agit pas avec inconvenance. Et le premier exemple qui nous est donné de nos relations dans l'assemblée, c'est justement que l'amour, eh bien, n'agit pas avec inconvenance, mais il agit avec tact et délicatesse. Et bien sûr, il tient compte des cheveux blancs. Et le terme honorer est sans doute différent, peut-être plus profond que le terme respect. Je pense que le terme de respect qu'on trouve volontiers dans le monde, eh bien, c'est avoir du respect. Mais honorer, il y a de la considération. Et honorer un père, honorer une mère, c'est avoir de la considération. Non seulement le respect qui est dû à l'âge, mais la considération. Et nous voyons donc que l'âge doit être respecté. Et il y a une déférence à avoir vis-à-vis de l'homme âgé. Et on peut se mettre dans son tort justement en manquant de respect. Et l'apôtre dit de ne pas agir avec rudesse, c'est-à-dire de ne pas heurter. Et nous savons que l'âge avancé est souvent accompagné de l'incapacité de soutenir des paroles dures. Et si la réprimande est nécessaire, selon ce que nous dit 1 Timothée 5, eh bien, elle doit être donnée dans un bon esprit et reprendre donc un vieillard sans ménagement peut produire un mal considérable. Et je trouve vraiment très beau le fait de le supplier comme un père. Si nous nous souvenons de nos parents, du mère, de la mère ou du père, eh bien, c'est quelque chose qui touche un être humain, un homme, une femme. Eh bien, supplier comme un père, ça devrait parler à nos cœurs afin que cette relation soit une relation heureuse et dans l'amour.
On peut peut-être voir le Seigneur Jésus même comme exemple, qu'on lit de lui en Évangile selon Luc. Au chapitre 2, quand il y avait la fête de Pâques, et il était monté avec ses parents, c'est-à-dire avec sa mère et Joseph, à Jérusalem. Il avait 12 ans, et on lit, pour juste rappeler le passage, ils étaient donc montés, et après les parents étaient redescendus, et puis ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux, donc ils le cherchaient, et alors ils l'ont trouvé au verset 46, et donc Luc 2, verset 46, et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Donc, on voit le Seigneur Jésus lui-même, malgré son intelligence et ses réponses, il était parmi les docteurs, au milieu des docteurs, et il écoutait et les interrogeait. Et en plus, on lit quelques versets plus tard que au verset 51, et il descendit avec eux, donc le Seigneur Jésus, il rentre pour ainsi dire à la maison avec ses parents à Nazareth, et leur était soumis. Donc on voit le Seigneur Jésus lui-même qui, malgré qu'il était Dieu, était en tant qu'homme, comme on le voit en Luc, comme fils de l'homme, comme il était soumis à ses parents et aussi par rapport au docteur de la loi, comme il était, comme il prenait la place en tant qu'un enfant de 12 ans. Et ça peut être aussi un encouragement pour les enfants présents ici, que d'obéir à leurs parents. On veut souvent tous faire des grandes choses, les adultes d'abord, pour servir le Seigneur. Mais si nous devons déjà commencer par les soi-disant petites choses que Dieu nous dit clairement dans la Bible, à les accomplir pour l'honorer. Et puis, ça compte naturellement aussi pour les personnes plus âgées. Par contre, il nous est plus dit d'être obéissant, mais d'honorer, comme on vient de le dire, d'honorer nos parents.
Il y a cet autre exemple également que nous trouvons la personne d'Éliu en Job, au chapitre 32, quand nous lisons au verset 4. Et Éliu avait attendu que Job eût cessé de parler, parce qu'il était plus... Job et ses 3 amis, plus avancés en jours que lui. Et par rapport à cela, on retrouve justement ce passage aussi de Galates, que nous connaissons tous, au chapitre 6. C'est vrai que ça ne s'applique pas directement, mais on peut en tirer quelques lumières pour notre marche. Frère, au verset 1er, frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelques fautes. Vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur. C'est vrai qu'ici, il ajoute encore, prenons garde à toi-même, comme pour dire que cela aussi peut arriver. Puis finalement, un passage qui est... On a beaucoup parlé justement dans Jean, plutôt dans le 5e chapitre de 1 Timothée, du comment. Eh bien, il y a chapitre 4 de Colossiens au verset 5, On commence au verset 5 jusqu'au verset 6. Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, saisissant l'occasion. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et dans ce chapitre 5 de 1 Timothée, mes frères l'ont déjà dit, c'est, on aborde beaucoup le comment faire, comment agir, comment répondre. Et les exemples qui nous sont donnés, les images qui nous sont données, ne peuvent que interpeller chacun, parce que tout emmener de père et de mère, ou tout emmener dans un environnement, mais au moins il a un père, il a une mère, et la considération est telle que il y a des choses, on le voit maintenant, que les bornes ont été déplacées dans notre société, où le plus jeune ou l'adolescent de 13 ans, 14 ans tient tête, fixe un vieillard qui a 5 fois son âge ou 6 fois son âge et ose lui tenir tête et lui tenir même des propos déplacés. On le remarque justement maintenant combien cela fait maintenant défaut, que les gens ne savent plus reconnaître leur place. Et c'est ce que Timothée justement avait à faire. Il avait reçu, ça a été rappelé au chapitre précédent, une grâce. Il avait reçu un don. Il devait l'appliquer, mais cela ne le dispensait pas. C'est ce que aussi on vient de relire avec le Seigneur. Ne le dispensait pas de se tenir à sa place pour que la parole qu'il avait à présenter soit exempte de toute, de tout prétexte ou de toute souillure qui viendrait à l'atténuer. Il y a ce passage, je crois que c'est dans les Proverbes, qui dit que un frère frustré est plus difficile à gagner qu'une forteresse ou une ville forte, je crois, comme pour dire que si déjà on va vers une personne et que on n'y met pas la forme qui convient, eh bien, ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, qui n'a rien à te répondre scripturairement parlant, mais qui, quand il ferme son cœur, eh bien, plus rien ne sera fait. Et combien, justement, dans notre société, on voit que ces barrières-là ne sont pas où c'est. On peut dire, on a parlé de sagesse à un endroit, combien, justement, ces petites choses ont été oubliées, jetées, sans même, je dirais, contredites à longueur de journée, et on en voit les dégâts. Et Michel nous parlait du témoignage. Est-ce que nous aussi, dans nos relations, on arrive à se dire, bon, c'est un frère qui est nettement plus âgé que moi, et dans Galates, on dit même qu'il a été surpris en faute. Donc la faute est là, il n'y a même plus à tergiverser. Comment on va réagir? Alors, à quand même plus forte raison quand on n'a pas l'évidence même de la faute, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit encore être plus sage. Et cette sagesse-là, justement, c'est dans cet esprit de grâce dont on nous a parlé que le Seigneur a su parfaitement manifester.
C'est important de bien trouver un équilibre dans ces choses-là. Parce que parallèlement, la parole elle-même nous montre bien des situations où l'exemple qui nous a été donné de Job est parlant. Job, si je reprends le verset du chapitre 32, le début de ce que dit Élihu, il dit explicitement, « Moi je suis jeune », verset 6, chapitre 32, verset 6, « Moi je suis jeune et vous êtes des vieillards ». C'est pourquoi je redoutais et je craignais de vous faire connaître ce que je sais. Je disais, les jours parleront, le grand nombre des années donnera à connaître la sagesse. etc. Mais Élihu est arrivé à un moment où il doit parler, où il doit reprendre, où il doit mettre le doigt sur la manière dont à la fois Job d'un côté et ses trois amis de Job d'une autre manière ont mal parlé. Il arrive que la répréhension est nécessaire. On a un autre exemple où l'âge ne ressort pas explicitement, c'est dans les Galates, quand Paul est amené à reprendre Céphas, et où il doit le lui reprendre quand même assez sévèrement, ce qui nous est dit entre ce qu'on sait de Paul d'une part et de Pierre d'autre part, il y avait probablement une différence d'âge, Paul devait être plus jeune que Pierre, de beaucoup on n'en sait rien, est-ce que c'était plus jeune de 10 ans ou de plus que 10 ans, mais en tout cas déjà Pierre avait une place en vue donnée par le Seigneur, Paul avait une autre place. Et là, Paul se retrouve dans la situation, au chapitre 2, de dire, on peut lire verset 14, « Quand je vis qu'il, Barnabas, Pierre, d'autres autour de lui, qu'il ne marchait pas droit sans la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, devant tous, si toi qui es juif, tu vis comme les nations, non pas comme les juifs, comment contrains-tu les nations à judaïser ?» Devant tous. Une répréhension nécessaire, solennelle, voilà. Et alors, en contraste, ne reprend pas rudement l'homme âgé. Paul est bien conscient de ces deux choses. Un autre exemple dans l'autre sens que je voudrais relever, dans 2 Chroniques 10, on a la succession de Salomon et l'histoire de Roboam. Et on voit Roboam qui fait ce que Arnaud a décrit. Il va consulter d'abord les vieillards, et puis il ne tient pas compte de leur avis. Et il va consulter les jeunes qui avaient grandi avec lui, et il va marcher selon ce conseil. Les temps d'aujourd'hui sont ce qu'ils sont, mais on voit que ce genre de choses, ça ne date pas d'aujourd'hui. Que quitter sa place en fonction de son âge, ça date de tous les temps. C'est lié à ce que nous sommes en Adam. À l'inverse, on voit un Élie au début du livre de Samuel, où Dieu doit lui faire envoyer l'homme de Dieu pour lui reprocher « Tu honores tes fils plus que moi ». Voilà un vieillard qui honorait le péché, qui laissait faire ses fils dans le péché. Donc, l'instruction que Paul donne à Timothée, c'est une instruction générale, c'est le point de départ. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père. Les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes sœurs, les jeunes comme des sœurs, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. C'est le point de départ, c'est la manière initiale dans laquelle nous allons avoir nos relations. Et selon les circonstances, on peut être amené à devoir agir autrement. Mais par défaut, si on peut dire, c'est ça. Père, mère, frère, sœur. Et alors, pour aller plus loin, pour avancer, fin du verset 2, les jeunes... femmes, les jeunes filles, les jeunes en contraste avec les jeunes gens, comme des sœurs, avec la précision, en toute pureté. Attention, il y a là un terrain, si on peut dire, qui est délicat, où il faut particulièrement veiller à un autre registre, en toute pureté. Ce sont des sœurs, et que des sœurs, pas autre chose. Le registre des affections, le registre de la sensibilité humaine ne doit pas jouer là. On est devant, sous le regard du Seigneur, en toute pureté. C'est quelque chose d'important à retenir. On peut très bien ne pas bien comprendre pourquoi Paul précise cela. Et puis un jour se retrouver dans des circonstances, si on l'a entendu, si on l'a retenu, on comprend très vite ce que cela veut dire. à quoi il faut veiller. Et là, on peut dire, le monde autour de nous nous montre l'inverse. La pureté n'a pas de place et à tous les âges.
Occasion pour dire quelque chose qui n'est pas écrit ici et qu'on n'a pas dit, mais j'aimerais quand même le dire pour les jeunes frères. Ça ne veut pas dire que dans les réunions d'assemblée qui sont guidées par le Saint-Esprit, il faut que les jeunes frères attendent que les frères plus âgés soient intervenus pour se laisser utiliser, tout particulièrement pour les réunions de prière ou pour le culte. Voilà, je voulais juste faire cette application, même si ça n'a rien à voir avec ce passage, pour vous encourager dans ce sens.
J'ajouterai juste en complément un peu avec ce que tu viens de dire, Benjamin, un passage qui peut illustrer dans Esdras 3, quand il y a l'autel qui est construit sur son emplacement, puis les fondations de la maison, et à la fin de ce chapitre 3, verset 11, au milieu, tout le peuple poussa des grands cris en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison d'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs et d'entre les lévites et d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison pleuraient à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix. Et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris et le bruit s'entendait au loin. Un événement là qui rassemble tout le monde, tous les âges ensemble. Un événement qui est heureux, qui n'est qu'un début de quelque chose, mais qui est un début heureux que Dieu a permis. Il est parlé, et ça nous est précisé, d'une catégorie qui sont les vieillards. Et puis il n'est pas précisé, il est dit beaucoup poussaient des cris de joie. Mais pour ces vieillards, voilà, ils étaient marqués parce qu'ils avaient un souvenir, ce qu'avait été le temple que Nebuchadnezzar avait détruit. Et cela, ça amène des larmes. Alors qu'en même temps, c'est un événement joyeux dont les plus jeunes, qui n'avaient pas ces souvenirs, ils découvraient. Ils avaient peut-être, une grande partie d'entre eux étaient nés en captivité, n'avaient jamais vu le pays, n'avaient jamais vu tout ce qui les entourait. Donc c'était de la joie. Et la différence de regard entre ces vieillards et ces jeunes, ce ne sont pas des choses qui s'opposent, ce sont des choses qui se complètent, qui sont à leur place, aussi bien l'une que l'autre, là. Et c'est tout autant comme ça dans la marche du peuple de Dieu. Il y a des regards différents sur les mêmes choses, des regards de tristesse, des regards de joie, qui ont tous les deux leur place. Et cela peut nous aider de penser à ces choses-là pour justement marcher avec toutes les différences que nous pouvons avoir de perception entre plus jeunes et plus âgés. Et marcher justement ensemble et apporter ce que le Seigneur nous donne à chacun et profiter de ce que le Seigneur donne à l'autre, aux autres. Dans cet esprit de différence d'âge, différence de vécu, différence de capacité, différence de connaissance, de sensibilité, etc. Et tout cela concourt à quelque chose qui est uni et qui fonctionne ensemble.
Je voudrais faire une remarque. L'exhortation s'adresse d'abord à Timothée. C'est Timothée ne reprend pas rudement l'hommagé. Exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Je crois qu'il faut prendre garde à ne pas en faire une généralité. Voyons bien que l'instruction est donnée à Timothée spécifiquement. et faire une généralité, il faut être quand même prudent. C'est-à-dire que reprendre quelqu'un, un homme âgé, l'exhorter comme un père, eh bien, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné. Il faut être dépendant du Seigneur dans de telles affaires qui arrivent dans l'Assemblée. Et donc, l'exhortation est bien faite à Timothée. Et bien sûr, nous avons à tirer des instructions en ce qui nous concerne, mais ne pas faire une généralité de ces instructions. Juste une remarque à propos de Paul qui a repris Pierre dans Galates. Ce qui a été dit me semble juste. J'appliquerai plutôt volontiers dans le chapitre 5 là, de 1 Timothée, le verset 20, en ce qui concerne cette circonstance. Ceux qui pêchent, convainquent-les devant tous. Et nous voyons que dans le contexte ici, entre les versets 17 et 21, il s'agissait bien sûr des anciens, des surveillants, et il faudra peut-être reprendre, si cela nous est donné, les instructions qu'il y a dans ce passage, mais ceux qui pêchent, convainquent-les devant tous. Il s'agissait de convaincre un apôtre vis-à-vis de notre apôtre. Et c'est pas donné, ce ne sont pas des instructions générales pour chacun de nous, frères. Et donc, dans les applications de ces versets, je crois qu'il faut en tirer sans doute de bonnes conclusions. La douceur, comme cela a été exprimé, le tact, la délicatesse, et chacun doit rester aussi à sa place. Les jeunes, c'est des jeunes, les frères âgés, c'est des frères âgés, les sœurs âgées, c'est des sœurs âgées, etc. Une deuxième remarque dans l'enseignement qui est donné dans ces chapitres 5 et 6, il ne nous est pas parlé de la famille chrétienne. Il ne nous est pas parlé du foyer chrétien. Il y a deux ou trois allusions, si on lit attentivement ce qui nous est dit dans ces chapitres 5 et 6, ce sujet des relations dans la famille chrétienne, dans le foyer chrétien. Ces instructions nous sont données dans Éphésiens 5 et Éphésiens 6. Et on peut se poser la question, pourquoi l'apôtre ici ne détaille pas tout ce qui concerne la vie de famille? Eh bien, tout simplement, ce n'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est le témoignage public de l'Assemblée de Dieu. Mais tous les détails qui se passent dans une famille chrétienne, dans un foyer chrétien, la relation entre le mari et l'épouse avec son mari, avec les enfants, c'est quelque chose de privé. Et au fond, cela ne regarde pas le monde. Ce qui regarde le monde pour avoir un témoignage public, c'est nos relations d'une manière générale. Mais tout ce qui se passe dans le foyer chrétien, dans la famille chrétienne, c'est quelque chose de privé et qui est détaillé ailleurs, et il faut aussi en tenir compte. Si on aborde maintenant la question des veuves dans l'Assemblée, il faut se souvenir d'abord que dans Acte 6, un des premiers troubles qui sont survenus dans l'Église, eh bien, sont survenus en relation avec des veuves qui avaient été négligées. Et donc, il n'est pas étonnant que Paul accorde une attention particulière aux questions qui les concernent. Et les remarques que nous trouvons dans 1 Timothée 5 nous montrent qu'il y a plusieurs sortes de veuves et qu'elles doivent être traitées différemment. Il faut se souvenir que les veuves dans l'Ancien Testament étaient l'objet d'une assistance particulière de la part de Dieu. Et il nous est dit que Dieu était le juge des veuves. Eh bien, dans l'Assemblée, eh bien, les veuves ne doivent pas être oubliées ou négligées. Et donc, nous voyons dans ce passage, en particulier, on peut lire aussi un verset dans l'épître de Jacques, en relation avec les veuves. Premier chapitre, verset 27. « Le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père est celui-ci de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. » Et donc nous voyons bien que les veuves, dans la parole de Dieu, occupent une place très importante. Et nous pouvons voir que les soins qui sont donnés aux veuves, eh bien, sont des soins, un honneur qui va au-delà d'un simple soutien. Et les veuves, donc, dans l'Assemblée, ne doivent pas être abandonnés à leur sort. Et c'est un témoignage très important, en particulier aujourd'hui, des soins qui doivent être apportés aux veuves dans l'Assemblée, un témoignage public de l'Assemblée. Et alors, l'apôtre emploie des expressions assez difficile quelquefois à comprendre, les veuves qui sont vraiment veuves. C'est une expression un peu particulière. En réalité, il veut dire, je pense, que ce sont des veuves qui sont seules. Et donc, nous voyons en particulier dans les versets 3, 5, 8 et même 16, qu'il est nécessaire de s'occuper des veuves qui sont isolées, sans aide terrestre, sans soutien. Et nous savons que Dieu a promis donc son aide à ces personnes. Il est le juge des veuves, il en prend soin. Et donc nous voyons que si nous nous occupons des veuves, vraiment veuves isolées, qui manquent de soutien, eh bien nous faisons au fond le travail de Dieu. Et au fond, d'un côté nous avons Dieu qui a soin des veuves, eh bien si nous sommes des instruments dans la main de Dieu pour apporter ses aides, eh bien, c'est quelque chose de heureux et qui ne peut avoir que l'approbation divine. Les veuves qui sont vraiment veuves. La deuxième catégorie, pour ainsi dire, de veuves, eh bien, l'apôtre aborde les veuves qui ont des enfants ou des petits-enfants. Nous voyons ça au verset 4 et au verset 8. Eh bien, il est nécessaire d'exercer la piété envers sa propre famille. Et là, nous voyons que c'est une allusion au foyer chrétien ou à la famille chrétienne, mais une simple allusion qui n'est pas, le sujet n'étant pas développé.
le juge des veuves lire le psaume 68, le verset 5 du psaume 68.
Dieu dans sa demeure sainte est le père des orphelins et le juge des veuves.
Lire dans le Deutéronome au chapitre 24, ça nous rappellera les enseignements de Ruth. Deutéronome 24, verset 19, « Quand tu feras ta moisson dans ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas pour la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. » afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Et donc, nous voyons qu'il y a une bénédiction spéciale de prendre soin des veuves. Dieu est le juge des veuves, et donc il a à cœur que nous puissions prendre soin aussi des veuves avec lui.
Chapitre suivant, Deutéronome 26, verset 12. Quand tu auras achevé de lever toute la dîme de ta récolte dans la troisième année, qui est l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils la mangeront dans tes portes et seront rassasiés. Notez que l'orphelin et la veuve sont mis sur le même rang que les Lévites.
Au chapitre 5 du 68e psaume qu'on a lu, il y a ce mot juge. Bon, je vais peut-être me lancer, mais qu'on ne le prenne pas comme l'image qu'on a aujourd'hui d'un juge qui, en disant le droit, peut condamner ou acquitter. Je pense que c'est plutôt vu dans le sens de celui qui prend leur cause en main. Celui qui défend leur cause d'une certaine façon. Et juste par rapport à ce que Michel a dit, Michel a précisé que les veuves, enfin celles qui sont vraiment veuves au chapitre 5 de Timothée, c'est celles qui sont seules. Je pense que Michel, c'était aussi celles qui n'ont pas de moyens, parce qu'à côté, il y a celles qui ont des moyens qui sont plutôt, oui.
Oui, pour être très concret, on ne le dit pas parce que c'est sous-entendu, on le pense, mais il vaut peut-être quand même mieux le dire. C'est un autre temps, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de pension de réversion. Voilà, tout simplement. Donc, une veuve ou un orphelin, c'était quelqu'un qui n'avait plus aucun soutien pour vivre, pour le quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a bien cette distinction. Celles qui sont vraiment veuves, c'est celles qui sont dans cette situation d'avoir personne comme soutien. Personne. Associé souvent à l'âge, et donc les capacités diminuées. Alors que si quelque veuve a des enfants ou des descendants, ben voilà, le mari n'est plus là, mais il y a une descendance, il y a des enfants, donc de la famille directe qui est rappelée, c'est à vous de prendre soin de votre mère.
On va faire une autre remarque aussi, c'est... Un petit peu plus loin, il est parlé de la veuve qui a 60 ans, verset 9, que la veuve soit inscrite n'ayant pas moins de 60 ans. 60 ans, de ce temps-là, c'était un âge avancé. L'espérance de vie était beaucoup plus courte qu'aujourd'hui. On peut ajouter la troisième catégorie, des veuves qui vivent dans le plaisir. Et on a dit que le mot, c'est qui vivent dans l'opulence. Ça peut être traduit qui vivent dans le plaisir, c'est dans l'opulence ou dans le luxe. Et c'est-à-dire une vie confortable. Et dans Jacques, je crois... chapitre 5, verset 5, il est dit « Vous avez vécu dans les délices sur la terre et vous vous êtes livrés aux voluptés. » Et nous avons ces mêmes expressions hein, en ce qui concerne la veuve qui vit dans les plaisirs. Vous avez vécu dans les délices sur la terre et vous vous êtes livré aux voluptés. Ce sont des paroles terribles hein, et des avertissements terribles. Ah oui. Je crois que dans Romains 8, au verset 12-13, « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non pas de la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Et donc là, il nous est parlé de veuves qui vivent dans le plaisir, ou dans l'opulence, ou dans le luxe. Eh bien, le danger, et il y a des dangers qui sont cités dans 1 Timothée 5, justement, c'est d'avoir une vie sans penser au Seigneur. On peut être sauvé, on peut être né de nouveau, être converti, et puis passer sa vie loin de Dieu, ne pas s'occuper de Dieu. Et nous voyons de ces tristes exemples dans la parole de Dieu, et il nous est parlé donc de veuves qui sont mortes en vivant, et bien qui perdent leur vie, et on peut perdre sa vie tout en étant des croyants. Et c'est sans doute des avertissements que nous avons besoin encore d'entendre et d'écouter.
Jacques a dit que les temps ont changé par rapport à la situation des veuves, c'est vrai. Juste rappeler que dans beaucoup de contrées, dans beaucoup de pays, il n'y a pas ce filet social qu'il y a en France, par exemple, ou même dans certains pays, aux États-Unis, beaucoup aussi n'ont pas cette sécurité comme ici en France. Bref, je veux parler particulièrement de l'Afrique que je connais plutôt bien. Et c'est assez, bon, j'en parle comme ça pour que c'est aussi pour nous des exercices pour en faire des sujets de prière. Non seulement ces veuves perdent des êtres chers, l'époux, mais c'est organisé de telle sorte que ceux qui restent viennent comme des rapaces dépouiller même la veuve de ce qui lui reste. Donc c'est toujours pour nous bien de porter ces personnes devant le trône de la grâce. Et puis il y a ce petit mot, je sais que Michel l'avait vu, ou Jacques, mais moi je voudrais un peu revenir. Une qualité qui est, je pense, on peut dire ça comme ça, pour celles qui sont vraiment veuves, à la fin du verset 5, et persévère dans les supplications et dans les prières, nuit et jour. Effectivement, celles qui sont vraiment veuves, ici on nous dit que c'est leur activité. C'est pas pour rien qu'on nous le cite ici, parce que quand tu n'as plus rien, et je dis, enfin pour ces cas-là, dans quelquefois j'ai eu connaissance, c'est même ta propre famille te tournant le dos, tu n'as plus que Dieu. Et là, on le voit aussi un peu dans les évangiles avec cette veuve qui était dans le temple et qui priait. Et elle a été récompensée, elle a vu loin du Seigneur. C'est une preuve que Dieu fait attention, une attention particulière à ces veuves qui s'attendent à lui. 36. Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, et veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour. Celle-ci, survenant en ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Voilà. Quelle grâce.
77, la première strophe. C'est